Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai rencontré pour vous Jeanne Benhammer. Elle était présente à la Comédie du Livre le week-end dernier et elle présentait donc un livre qui s'appelle « L'enfant qui ?». Petit livre assez étrange qui est une sorte de mélange de paroles avec des « tu », des « je », des « nous », enfin des pronoms personnels qui jouent un rôle dans la narration du petit livre et qui est au fond presque un roman initiatique sur un enfant imaginaire qui donc aurait perdu sa mère et qui serait pris entre son père qui ne se remet pas de la perte de la mère, donc de l'épouse, et sa grand-mère qui fait le lien avec l'imaginaire de la famille. C'est un petit roman extrêmement délicat, très raffiné, auquel il ne manque pas un seul mot, tout est pesé, mesuré. Et donc Jeanne Benhammer publie ce livre alors qu'elle en a publié un très très grand nombre. Alors que dire sur cet auteur? Eh bien, dire qu'elle est née en 1952 à Alger, qu'elle est venue en France à l'âge de 5 ans, à La Rochelle exactement, de père algérien et de mère italienne. Et donc elle est devenue professeure. Et puis, au fil des ans, elle a cessé d'être professeure pour devenir écrivain à part entière et animer des ateliers d'écriture. Voilà, elle publie ce petit livre aux éditions Actes Sud. Elle nous en explique le mécanisme. Vous êtes présente à la Comédie du Livre avec un nouveau livre, enfin, qui a quelques mois. Au titre un peu énigmatique, « L'enfant qui ?», qui est un petit livre extrêmement dense que vous venez de publier. Et alors, quand on regarde la couverture, on lit le mot « roman ». Alors, j'aimerais que vous vous expliquiez un peu sur cette qualification, parce que ce n'est pas à proprement parler un roman.
Écoutez, je crois qu'il y a Mohamed Aïssaoui dans le Figaro cette semaine qui en a parlé, et finalement il dit très bien les choses, donc je me sers de ce qu'il a dit. Il dit roman, poème, fable, conte, tous les genres se sont donné rendez-vous ici.
C'est tout à fait juste. Mais peut-être aussi parce que vous pratiquez vous-même presque tous les genres littéraires, des formes courtes, des formes longues, le théâtre, la poésie, donc on a l'impression que tout ça et concentré dans ce petit livre qui est un grand livre.
Ben, je vous remercie, mais oui, c'est vrai que moi, je ne me prive pas. Quand l'écriture m'arrive, quand j'ai la nécessité d'écrire un texte, je ne me prive pas d'aller vers là où appelle l'écriture. Quand ça donne du théâtre, ça donne du théâtre. C'est un théâtre particulier que j'écris. C'est un théâtre poétique aussi. C'est un théâtre où on a beaucoup de monologues. Par exemple. Donc il y a toujours, je pense qu'on retrouve toujours certaines grandes lignes qui sont ma façon de travailler finalement. Et dans L'enfant qui, c'était vraiment une aventure. Je ne savais pas moi-même ce que j'écrivais. Quand j'ai écrit, et je l'ai d'ailleurs dit à mon éditrice, je ne sais pas dans quoi je me lance, mais j'y vais parce que ça appelle et que ça doit être écrit. Donc la forme, c'est la forme dont on parle à la fin, finalement. Mais en cours d'écriture, je ne me suis pas dit, est-ce que j'écris un roman, est-ce que j'écris un poème, est-ce que j'écrivais un texte. Moi, je dis que c'est un texte. C'est un texte. Voilà.
En même temps, on peut quand même lui rattacher certaines formes romanesques dans le récit qui, effectivement, amènent le roman.
Oui, parce que effectivement, Il y a une situation de départ, on peut dire ça, et on avance pas à pas, donc on peut dire, oui, qu'il y a une tension dramatique, il y a quelque chose de narratif, quand même, disons. Il y a quelque chose de narratif, voilà.
Alors, c'est une, comment pourrait-on dire, c'est une suite de, non pas de chapitres, mais on pourrait dire de séquences d'écriture relatives, courtes la plupart du temps, qui sont, le narrateur, il y a un narrateur qui parle au jeu, et qui s'adresse à un enfant, donc, et qui lui dit « tu », bien sûr. Et ça crée une tension dramatique, cet échange entre le jeu et le tu, qui fascine en fait le lecteur et qui nous guide du début jusqu'à la fin du livre, avec de temps en temps l'incursion du il. Et là, on parle du père. Oui. Et quelquefois, il y a un nous, mais qui est très à dose homéopathique à la fin. Voilà. Alors, comment s'est fait ce choix, enfin, de ce mode de narration, en tout cas avec cet usage des pronoms personnels?
La première mouture du texte, c'est un texte à la troisième personne. J'ai d'abord écrit le texte au « il », parce que je crois tout simplement que j'avais besoin de marquer une distance et de me protéger moi-même, de me préserver dans cette écriture. Donc j'ai parlé de l'enfant, et c'était l'enfant qui, et c'était « il ». Et bien évidemment, et c'est là qu'un regard éditorial est tellement intéressant, quoi. Ça crée une distance pour le lecteur. La proximité n'y était pas, et je sentais bien que moi-même, je n'avais pas osé y aller. Et j'ai donc réfléchi, laissé reposer le texte, et à un moment, j'ai su qu'il fallait que je m'adresse à cet enfant en lui disant « tu ». Parce qu'en fait, je m'adresse à l'enfance qui est en chacun de nous et qui est en moi aussi. Et donc c'est à cette enfance que je dis « tu ». Et c'est pour ça que le jeu, du coup, en disant « tu », je me suis donné une place de narrateur qui est le jeu. Je suis cette espèce de personnage comme un peu comme une mère bienveillante pour cet enfant qui lui parle aujourd'hui. Et je parle à l'enfance, à ma propre enfance.
En fait. C'est ça. En fait, l'enfant, c'est à la fois l'enfant du roman et aussi l'enfant que vous étiez, au fond.
Oui, c'est ma propre enfance. Alors, bien évidemment, là où c'est un roman, bien évidemment, ma vie n'a pas du tout été celle qui est racontée dans l'enfant qui. Ma mère n'était pas une vagabonde qui lisait dans les lignes des mains. Mon père n'était pas un homme qui allait boire au café. Non, pas du tout. Mais cet enfant, cette solitude, je le dis d'ailleurs dans le texte, je dis « tu es l'origine de ma solitude ». Cette solitude et comment se créer sa propre route soi-même, oui, ça c'est mon enfance. Oui. Voilà.
Alors il y a trois personnages principaux. Il y a donc l'enfant que l'on découvre au début, puis ensuite il y a le père et ensuite la grand-mère.
Oui.
Alors ce sont trois personnes qui marchent, trois personnages qui marchent.
Oui.
Ils marchent vers quelque chose, une sorte peut-être d'au-delà d'eux-mêmes,
oui.
qui peut les amener à se définir, à se trouver. En tout cas, on a l'impression qu'ils marchent vers ce qu'ils sont, vers leur essence peut-être.
Oui, ces trois personnages ont été mis en route par la disparition de la mère.
J'oubliais, voilà. Qui n'est pas un détail.
Et ça, c'est peut-être le personnage très fort aussi du texte.
Il
est absent. C'est un personnage absent, qui est cette femme, cette vagabonde, cette étrangère, qui a disparu. Voilà, c'est tout ce qu'on en sait dans le texte.
On ne sait pas si elle est décédée ou pas. Enfin.
On peut imaginer, il y a la rivière, on peut imaginer, des gens disent qu'ils l'ont vue ailleurs, sur d'autres routes, enfin bon, voilà, on imagine ce qu'on veut, mais elle n'est plus là, elle ne sera plus jamais là, ça c'est sûr. Et à partir de là, ces trois personnages sont bien obligés d'aller effectivement, comme vous le dites, vers le plus profond d'eux-mêmes pour pouvoir continuer à vivre.
Alors, ils marchent tous vers quelque chose. Et il y a un certain nombre d'éléments naturels qui sont fondamentaux. La rivière.
Oui, il y a la rivière, il y a la forêt.
Il y a la forêt,
très les arbres. Hein. Donc, oui, et c'est vrai que je ne sais plus qui a dit, c'est un roman écologique au sens où l'écologie fait partie de la vie humaine. Oui, il y a toutes les sensations du corps humain en lien avec la nature, avec les arbres, avec l'air, avec le vent, avec la rivière. Oui, c'est très important.
Ce qui est absolument fascinant, c'est que on a l'impression qu'il n'y a pas de discontinuité entre la nature et les personnages. C'est-à-dire que leur réaction, leurs sensations, leurs émotions est en parfaite osmose avec ce qui est décrit, je pense aux maisons, oui. Aux intérieurs, aux couleurs, enfin, la forêt, tout. Il y a une... c'est fascinant, cette espèce de... C'est un monde qui se... Il n'y a pas de rupture entre l'humain et le végétal.
Ah ben, je suis contente que vous ayez senti ça, parce que pour moi, ça, c'est très important, qu'effectivement, il n'y ait pas de rupture, oui, entre l'humain et la nature, qu'il n'y en ait pas. Que le végétal, le minéral aussi, parce qu'on parle des pierres, soit... Pour moi, c'est aussi important que l'humain, en fait. Voilà, moi je vis au bord de l'océan, je le dis d'ailleurs à la fin du texte, je vis avec le sable, j'ai toujours, là j'en ai encore, des coquillages, des cailloux dans mes poches, parce que, je sais pas, ça fait partie de mon monde, et j'ai pas envie de m'en détacher. Et quelquefois, dans une odeur, dans le vent, il y a plein de choses qui se passent, qui sont des choses éminemment humaines, justement. Mais qui nous viennent par les éléments extérieurs.
D'ailleurs, je m'empresse de dire que ça n'est pas dû. Il y a très peu. Il n'y a pas de psychologie. Les personnages ne sont que dans leur relation à leur environnement.
Oui, moi je suis plus dans une phénoménologie. Voilà, j'aime bien donner à voir, c'est ce que disait Barthes. Hein. Donner à voir, donner à sentir, donner à entendre. Je reste là dans le corps, très fortement dans le corps, et dans tout ce qui va se générer à partir des perceptions, jusqu'à la réflexion, parce qu'il y a des moments de réflexion dans ce texte. Sont générés par la perception. Et j'aime ça.
Alors, c'est un texte qui est, très poétique, lyrique, mais sans aucune grandiloquence. Enfin, c'est un bonheur de le lire. C'est pour ça que je dis, c'est un petit livre dont on ne se sépare pas avant de l'avoir terminé.
Et oui.
On est pris par... Il y a une magie du verbe dans ce livre.
J'ai travaillé.
Oui. En tout cas, c'est un sacré résultat.
Il y a une éditrice chez Actes Sud qui me disait « C'est un livre talisman. On va le garder avec soi. » C'est
alors,
beau.
Justement, ça me menait à une question. Est-ce que dans votre œuvre, qui est très importante quand même, je ne l'ai pas dit au début, mais vous avez un nombre impressionnant de titres à votre actif. Est-ce que ce livre-là est un tournant ?
Oui. Ah oui, oui. Moi, j'ai conscience, avec ce texte-là, d'avoir fait un pas. D'avoir fait un pas, aussi bien d'ailleurs à l'intérieur de moi-même, parce que l'écriture, ça nous travaille, forcément, hein, quand on y est de tout son être, ce qui est mon cas, ça fait avancer. Et j'ai la sensation d'avoir fait un pas aussi en écriture. J'ai la sensation, dans mon art, entre guillemets, d'être allée encore plus loin, de m'être permis encore une liberté plus grande. Et c'était pas facile, cette histoire des pronoms dont vous avez parlé. Le tu, le je, à un moment, on peut dire nous, et puis à la fin, pouvoir dire le je tout seul, tout simple, comme ça, comme on est, quoi, les êtres humains. J'ai la sensation d'avoir avancé dans mon travail pour gagner cette simplicité, cette liberté, justement. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire à la fin du livre que l'enfant qui, alors on comprend bien que c'est qui fait, qui va, qui est
oui,
pauvre,
c'est l'élan.
Qui, voilà.
En fait, cet enfant qui, c'est l'élan dans l'enfance qui va faire qu'on va avancer. C'est pour ça que ça s'appelle l'enfant qui.
Et on sent tout le potentiel qu'il y a derrière ce pronom relatif. Est-ce qu'à la fin, on peut dire que cet enfant est accompli ?
Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que il a ce qu'il faut pour s'accomplir et qu'il s'en rend compte, qu'il en est conscient. Il est conscient qu'il peut monter à la maison de la pique. Alors pour ceux qui ne l'ont pas lu, ben voilà, ça va être mystérieux.
Voilà, c'est très bien.
Mais qu'on peut y monter, qu'on peut redescendre et que la vie, ça peut aussi être ça. Et que moi, je pense vraiment que chaque vie humaine est un poème. Hein. Je pense vraiment que nos vies sont des poèmes que nous écrivons en vivant tous les jours. Je vois la vie que comme ça.
Alors, il y a une force de l'imaginaire dans votre livre qui est absolument terrible. Je pense à la première maison dont il est question.
Oui.
Une fois que ce qui devait se passer s'est passé, on se dit, mais peut-être c'était un rêve, peut-être c'était un fantasme, peut-être...
C'est ce que je voulais.
Elle disparaît.
Voilà, quand il se retourne, il y a les ronces on se pose la question. Une maison, point d'interrogation. Voilà. Oui, parce que ce sont... Et je n'avais pas envie, moi, de dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Peu importe, parce que c'est l'imaginaire de cet enfant. Et c'est ça qui le sauve de tout, en fait. Hein. C'est comme le chien. C'est ce chien qui le guide, et voilà, que lui seul voit. Mais les maisons dans lesquelles il entre et qu'il traverse sont des sortes d'étapes intérieures aussi. Alors, elles peuvent peut-être exister, elles sont peut-être là. Hein. Il faut aller dans les forêts pour aller voir si elles sont là. Mais elles sont des maisons intérieures aussi, bien sûr.
Plus que des maisons réelles.
Oui, mais en même temps, moi, je les voyais, je les sentais, je touchais les pierres, quoi, en écrivant. Donc ça, je l'ai mis dans le texte. C'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce que c'est des vraies maisons ou est-ce que c'est que de l'imaginaire?
Mais cette présence du réel, on le sent. Je veux dire, dans la lecture, c'est flagrant. Alors, je me suis dit, au fond, peut-être, c'est que ce livre est... Et petit en nombre de pages, mais il est tellement concentré, il y a une telle qu'on ne peut que toucher du doigt ce que vous décrivez. Et en étant toujours entre le réel et l'imaginaire, on n'est jamais vraiment sûr de ce que l'on croit.
Mais parce que je pense vraiment qu'un être humain est fondé par l'imaginaire et le langage. Les deux, c'est ce qui nous articule au réel. Et donc, quand on veut être pragmatique, entre guillemets, parler de la réalité, etc., on ne devrait jamais oublier que dès qu'on regarde quelque chose, de toute façon, notre imaginaire est en jeu. On le sait, ça. On le sait, toutes les études qui ont été faites sur le cerveau, on le sait, tout ça. Mais on fait comme si ça n'existait pas. Moi, je ne fais pas comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire que je sais... que l'imaginaire a une place dans ma vie qui est extrêmement importante, que je la mets aussi dans les livres, mais que cette capacité à créer des images intérieures que nous avons tous est une force, mais c'est une puissance extraordinaire pour un être humain. Donc j'y tiens beaucoup. Et le corps est engagé là-dedans. C'est sans doute là qu'il y a l'articulation dans mon texte, qui peut-être lui donne de la force, parce que je pars vraiment des sensations, des perceptions. Et finalement, c'est le premier texte où j'ai eu, à un moment, conscience, quand c'était suffisamment avancé, que j'osais embarquer les autres avec moi, dans mon propre imaginaire. Je les fais monter à la maison de la pique. Je leur fais vivre ce que moi je vis quand j'écris, en fait. C'est ça, ce vertige-là. Et puis on en redescend, et la vie est là, et c'est bien, parce qu'on est plus libre. On a gagné de la liberté.
Alors, il y a un personnage secondaire, mais qui ne l'est pas vraiment, qui est un animal, et qui est le chien. Alors, je me suis dit, le chien, est-ce que c'est l'intermédiaire entre les personnages, et en tout cas l'enfant, et le monde auquel il est confronté?
Oui. Vous savez, ce livre, il est dédié à John Berger, qui est mort en janvier, qui est vraiment, pour moi, un penseur et un écrivain et un homme. Je continue à mettre au présent, que j'aime beaucoup, et voilà, qui, pour moi, a une force, quoi. Et dans un de ses textes, La forme d'une poche, il parle du chien. Il parle des chiens, en disant que finalement, les chiens, les chevaux aussi, nous mettent en relation avec l'invisible, parce que eux, ben, ils ont un flair que nous, on n'a plus, ils entendent des choses que nous, nous n'entendons plus. Et c'est vrai que quand on se promène avec un chien et qu'on voit tout d'un coup s'arrêter alors que nous, on n'a rien vu, ça appelle. Donc je crois que mon chien, il vient de là, et puis aussi d'un chien que moi j'ai eu quand j'étais très petite et qui était important pour moi. Et je parle du silence du pelage. C'est important pour moi.
C'est une très belle image, ça.
C'est important pour moi. C'est des choses que je sens, quoi, vraiment fort. Et donc, cet animal, ben, il n'y a que lui qui pouvait guider l'enfant. Et peu importe qu'il existe ou pas.
Oui.
Finalement, là encore, il n'y a que l'enfant qui le voit, en fait.
Alors, pour revenir au personnage en creux, qui est cette mère qui a donc disparu, Il semble en lisant, qu'elle ait laissé un dessin.
Oui.
Et c'est ce dessin que le père, sans arrêt, ressort de sa poche, remet dans sa poche, comme une espèce de talisman, pour le coup.
Oui, c'est tout ce qu'elle lui a laissé, et il ne comprend pas. Il comprend pas pourquoi elle est partie, il comprend pas son propre désir pour cette femme, il ne l'a jamais compris. D'où la rage qu'il éprouve, parce que je pense que la rage, c'est quand on désire quelque chose qu'on n'arrive pas à aimer. Alors, on devient enragé. C'est comme ça. Et cet homme, il l'est, enragé. Donc, il boit du vin pour se calmer, mais ça ne calme pas grand-chose. Et ce dessin est une énigme. Une énigme qu'il n'arrive pas à résoudre. C'est l'énigme de cette femme, et c'est l'énigme du désir de l'homme. C'est un personnage qui m'a surprise, parce que au départ, pour moi, c'était quelqu'un d'assez rustre, pas très intéressant. Et en fait, c'est toujours pareil, quand on écrit, on aime les gens. Et j'ai commencé à me questionner sur le désir de cet homme et sur ce qu'il vivait, lui, dans cet abandon et cette rage qu'il éprouvait et ce désir persistant. Et qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Et son incapacité aussi à être père. C'est un amant, c'est un fils, mais ça n'est pas un père. Il n'arrive pas à être le père de l'enfant. Il n'y arrive pas, la paternité, il ne l'atteint pas. Et c'est très humain.
Oui.
C'est pas parce qu'on a fait un enfant qu'on en est le père ou la mère. Hein. On le devient. Mais quelquefois, on n'y arrive pas. Et lui, il n'y arrive pas. Et c'était toute l'impuissance de cet homme qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, beaucoup émue. Et du coup, j'ai travaillé ce personnage-là.
D'ailleurs, tout au long du livre, il prend une sorte d'épaisseur qu'il n'a pas au début. Et du coup, effectivement, on s'y intéresse beaucoup plus. Au début, il est un peu transparent. Et puis, peu à peu, il prend de l'existence.
C'est ce qui s'est passé dans l'écriture. Au début, pour moi, c'était une figure, cet homme. C'était une figure. Une figure assez brutale. Et puis, au fur et à mesure, effectivement, je suis entrée à l'intérieur et il s'est incarné. Du coup, il s'est incarné et il m'a questionnée, il m'a touchée. J'ai été émue par tout ça. Donc, il a pris de la complexité.
Alors, il y a un seul lieu social, on va dire, pour aller vite, oui. Et c'est le café.
Le café du village.
Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'existence de ce café?
Mais c'est, je me rappelle un jour où en fait j'étais en petite vadrouille familiale et mon frère m'a emmené dans, il y avait un village, un beau village avec un château, etc. Et il y avait un café, mais vraiment je lui ai dit, oh là là, on dirait les cafés d'antan, quoi, un café vraiment à l'ancienne. Et je voyais bien que les gens qui venaient là, nous on était un peu en touriste, mais les gens qui venaient là, c'était leur lieu. Et ce café m'a touchée, vraiment. Et c'est ce café-là, en fait, qui a donné naissance au café qui est dans le roman. Et je pense qu'il y a des lieux comme ça dans les villages où les gens vont. C'est des cafés comme ça qui sont des lieux où on ne va pas forcément se parler, parce que ce que je dis, les vies des uns et des autres, on les connaît par cœur. À un moment, je dis, on pourrait parler chinois, quelle importance. C'est juste le fait d'être ensemble,
d'être là, oui.
d'être coude à coude, de boire un coup, avant de retourner au quotidien qu'on connaît. Moi, je sens là une sorte de besoin humain, une nécessité humaine d'être ensemble, qui me touche beaucoup. Donc voilà.
C'est un lieu chaleureux.
Oui, le patron et la patronne mangent dans leur café, donc il y a les odeurs de leur repas.
Très c'est, important.
Et oui, c'est comme une sorte de maison commune. Mais si on pense au village africain, par exemple, où il y a la case commune, hein, finalement, bah là, le café, ça joue ce rôle-là.
Alors, dans votre œuvre, vous avez pas mal écrit sur l'enfance, mais vous avez aussi écrit pour la jeunesse.
Mais oui, c'est toujours la même chose,
vous
en
avez,
fait.
Ça a beaucoup d'importance pour vous, l'enfance.
Ben oui, hein, je pense que pour chaque être humain, hein, c'est de là dont on vient. Donc, je pense que dans nos vies, quand il se passe des événements forts dans nos vies, on revient à l'enfance. On fait un petit hop, une petite boucle et on revisite notre enfance et on repart. Donc j'ai écrit pour les enfants, la jeunesse. Donc là, on est au plus près. On s'adresse à des gens qui sont encore dans l'enfance. Mais quand j'écris pour les adultes, entre guillemets, je continue toujours à m'adresser à l'enfance qui est en chacun de nous. Bien sûr, oui.
Alors, ce livre fait, je ne sais plus, une somme, oui, 120 pages.
120 pages, oui, c'est un petit livre.
Mais est-ce qu'il est apparu comme ça, ou est-ce que vous avez écrit, je ne sais pas, 600 pages et
non,
vous avez taillé dedans?
Non, non, moi je retravaille tout le temps au fur et à mesure. Et j'enlève toujours beaucoup de choses quand je travaille, parce que je trouve toujours qu'on écrit trop, que c'est trop, qu'on n'a pas besoin de tout ça. Et, ça m'intéresse de laisser de la place au lecteur, à l'imaginaire du lecteur. Donc j'essaie de nourrir l'imaginaire sans le gaver. Sans l'affamer non plus. C'est pas un petit équilibre diététique littéraire que j'essaie de trouver. Voilà. Et donc, non, je savais, moi, que ce texte serait court. Il ne pouvait qu'être court. Ça me paraissait normal que ça soit court. Là, j'ai, par exemple, j'ai au fond de moi un roman qui était déjà là avant que j'écrive L'enfant qui... Mais l'enfant qui s'est imposé, donc je lui ai fait la place, et qui est un roman beaucoup plus long. Beaucoup plus comme Profane ou Otage intime, qui sont des romans plus narratifs, et que j'ai envie d'écrire, mais plus tard. Et là, je sens qu'il y a un souffle horizontal, la narrative, qui va se développer. Là, c'est un texte vertical. L'enfant qui, c'est vertical. Donc c'est comme ça, c'est comme Les Demeurés pour moi. Il est très proche des Demeurés, mais il est écrit 17 ans après. Donc j'ai eu le temps de travailler, de vivre, de réfléchir et d'avancer, je pense, dans l'écriture. Mais il est exactement, vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est important? Oui, il y a Les Demeurés et maintenant au bout de l'éventail, il y a l'enfant qui. Je le sens ça, oui.
Alors, une dernière question. Vous êtes né en Algérie.
Oui.
D'un père algérien et d'une mère italienne, d'après ce que j'ai compris.
Famille tunisienne, oui.
Ouais. Et vous écrivez en français. La tentation ne vous a jamais prise d'écrire dans une autre langue?
Je suis très tentée par l'italien, bien sûr, mais non, parce que, en fait, je ne sais pas quelle est ma langue maternelle. J'en sais rien. Si c'est la langue qu'on parle dès qu'on est tout petit, c'est le français. Parce que mes parents, mon père avait vraiment fait le choix de l'intégration pure et dure. C'était les années 60 et c'était un homme qui voulait absolument qu'on ait un métier, qu'on soit libre, qu'on ait une vie sociale. Donc on parlait français. Donc on a parlé français. Ma mère, évidemment, m'a parlé italien quand j'étais très petite. C'était la langue... d'avant, voilà. Et moi, je ne parle pas l'italien, mais en fait, je le comprends. Je lis en italien directement, et parfois, oui, l'italien arrive, mais voilà, c'est dans ma vie, c'est quand même le français qui a pris la place, donc que j'ai travaillé, que j'aime aussi, hein, parce que c'est une langue tellement magnifique, tellement subtil.
On le lit bien que vous l'aimez.
Et oui, c'est une langue tellement subtile, c'est formidable, quoi. L'italien, c'est aussi une langue subtile, mais différemment. On est sur un autre versant de la langue avec l'italien. Donc voilà.
Voilà, c'était donc le livre « L'enfant qui » de Jeanne Benhammer, sous-titré « Roman » et c'est paru aux éditions Actes Sud. À la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.